moi, ce que je comprends dans le dans notre système, c'est que il y a une continuation de l'oppression et banalisation qui impacte la santé de la communauté et les membres. Il y a encore une approche systémique pour détruire le système familial, l'identité autochtone, puis le mode de vie d'autochtone. Donc, avec ça, si on met avec ça, couplé avec un désir ou un besoin de arranger le problème indien, le désir de sauver les Autochtones, ça crée une relation inégale. Et quand on veut sauver quelqu'un, on enlève les pouvoirs individuels et les responsabilités. Donc, on crée des dépendances, on crée des manques de pouvoir, on désempare l'individu.
Donc, les individus qui peuvent commettre l'inceste sur un enfant, évidemment, c'est parce qu'il a perdu le sens du pouvoir sur sa réalité, sur sa vie?
C'est ça. Tu sais, l'agression sexuelle, ça n'a rien à voir avec l'amour ou le désir sexuel. L'agression sexuelle implique l'usage de pouvoir, la force de contrôle sur les victimes. Donc, quand on a une personne qui n'a pas de pouvoir, on utilise des moyens externes pour avoir le pouvoir externe. Donc, l'agression sexuelle, c'est une manière de exercer des pouvoirs malsains, mais c'est vraiment, l'agression sexuelle, c'est des jeux de pouvoir, là. C'est pas l'amour ou le désir sexuel, là.
Non. Est-ce qu'on en parle bien de ce sujet-là? Parce que là, c'est un sujet vraiment épineux et très sensible. Parce que d'habitude, on va parler beaucoup des personnes qui sont agressées. Mais parler des personnes qui ont une tendance à ça ou qui se posent des questions en ce sens-là, est-ce qu'on a le bon discours en ce moment sur ces sujets-là?
Moi, je pense qu'on est en arrière. On est vraiment en arrière dans qu'est-ce qui devrait arriver pour aider un système d'inceste, une famille d'inceste, une communauté qui a beaucoup d'agressions sexuelles dans la communauté. On n'est pas rendu au niveau de vraiment aider tout le monde.
On veut pas en parler
On n'en parle pas. Premièrement, dans les communautés, il y a encore un très gros code de silence. Puis aussi, quand on parle de l'inceste, aussi on parle de la loyauté familiale. On veut pas déranger le système familial. Donc, la loyauté, c'est très fort. La loi de la silence, c'est très fort. Puis, pour quelqu'un qui fait l'agression sexuelle, l'agresseur, si tu veux, là, il n'y a pas des services dans la société vraiment pour la prévention d'agression sexuelle. Si quelqu'un pense, j'ai goût de toucher à ma fille, il n'y a rien. Où cette personne-là va appeler?
Ben oui.
Où qu'on peut faire la prévention?
On peut pas le dire à personne.
Tu peux pas le dire à personne. Sinon, tu vas te faire ramasser en dedans tout de suite. Donc, on prend pas une approche holistique pour répondre à l'agression sexuelle, pour répondre à l'inceste dans la communauté. Puis même quand les victimes dénoncent l'inceste, le système société, on est encore pogné au niveau de blâmer les victimes.
Oui. Ben finalement, il y a comme deux victimes là-dedans.
Oui. C'est ça. Ici, blâmer les victimes, on étudie tout ce que la victime a fait pour provoquer une agression sexuelle.
Oui.
Tu sais, on n'est pas rendu au point de fournir une approche holistique pour les familles.
Est-ce qu'on sait... On a parlé de pouvoir tantôt, de perte de pouvoir chez une personne qui va le mener à l'abus. Est-ce qu'on sait les chiffres ou les pourcentages de personnes qui sont des abuseurs, qui ont été abusées ou agressées étant jeunes? Est-ce qu'on a une idée des chiffres?
La recherche n'est pas 100% à dire que parce que t'as été victime d'agression sexuelle, tu vas devenir agresseur.
Non.
Non, c'est pas conclusif, c'est pas 100%. L'agresseur sexuel en a différents types. Il y a différents facteurs qui causent, qui causent un agresseur sexuel, mais c'est pas conclusif à 100%. Les recherches, il y a plein de différentes dynamiques qui contribuent à une personne va avoir des déviances sexuelles. C'est sûr, si une personne été victimes, puis qui sont dans un environnement de violence, puis qui s'il y a eu de la violence dans leur vie, à un moment jeune dans leur vie, c'est sûr que tous ces facteurs-là vont contribuer à pas la possibilité que la personne soit agresseur. Mais il n'y a pas quelque chose vraiment concluant qui dit que cette personne-là va être agresseur.
Qu'est-ce qu'on fait pour briser le cycle?
Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas rendu à briser le cycle. On est dans les communautés autochtones. Ça, je dirais, ça fait un bon vingtaine d'années qu'on travaille à changer, à briser le cycle de pression. Mais il manque encore un bon bout de chemin à faire, vraiment prendre une bonne approche. Il faut avoir une perspective guérissant. Tu sais, pour les agresseurs qui passent en service correctionnel, ça suffit pas. Dans une approche autochtone, on parle d'une approche de guérissant qui mène à l'imputabilité, qui amène la personne en guérison vers l'équilibre. T'sais, actuellement, on regarde ça, le perspective punitif.
Oui, il y a un crime en prison, il peut y avoir des thérapies, mais c'est comme si on n'agissait pas en amont.
Non, exactement. Donc, c'est punitif. Donc, vous avez commis un crime, oui, bon, on va te mettre en dedans. Mais oui, il y a des choses qui se passent en service correctionnel pour changer le comportement,
oui.
Mais ça suffit pas pour ramener les personnes en équilibre. Dans une approche autochtone, on regarde, quand quelqu'un commet des actes comme ça, on le regard vers cette personne-là, c'est comme, il est en déséquilibre. Ou elle est en déséquilibre. Il faut trouver les moyens pour le retrouver l'équilibre.
Les personnes qui sont dans ce mode-là ou qui ont ces envies-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il y en a qui ont dit, ben avant, j'ai fait telle chose, j'en ai parlé au prêtre, j'ai contacté un psychologue. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Bien, c'est sûr, dans les communautés, il y a des services de clergy, des services d'église qui peut avoir le prêtre, mais aussi dans nos communautés, on a des guérisseurs, des aînés que les personnes vont aller vers eux pour avoir l'aide.
Oui, mais ça, j'imagine que ça ne doit pas être facile pour une personne. Je veux dire, c'est extrêmement tabou.
C'est extrêmement tabou.
Il n'y a personne qui parle de ses déviances sexuelles.
Non, il n'y a personne qui veut parler de ça. Il faut vraiment créer des environnements sécuritaires pour les victimes.
Oui.
Puis pour l'agresseur, pour assurer que tout le monde est en sécurité, pour qu'on soit capable de vraiment garder faire l'inventaire de nos déviances, puis de vraiment garder ça. Mais on a un bon bout de chemin à faire encore avant d'arriver là. Si actuellement, on fait la solution Band-Aid. Si au lieu de garder le problème, on garde les symptômes.
Il y a des possibilités de s'en sortir de ça pour les personnes qui sont abuseurs. Là, je vais vraiment sur cette note-là. Là. Il faut bien comprendre pour les auditeurs, je suis pas du tout dans... il y a l'aide aux victimes, etc., mais je regarde un peu... on regarde avec Wanda Gabriel un peu la dynamique qu'il y a. Il y a un moyen de se guérir de ça, de trouver des solutions. Il y en a qui réussissent à s'en sortir.
Oui, on garde... Si on garde une approche autochtone de guérison, on garde tout le système familial. Dans l'approche autochtone, on n'exclut personne. C'est vraiment guérison, approche guérison, c'est vraiment de rétablir l'équilibre dans l'individu, dans le système familial, dans le système communautaire. Donc, on prend tous les moyens, d'abord, sécuriser tout le monde, assurer que la victime est sécurisée, assurer premièrement que la victime soit en sécurité, puis qu'elle a les soins ou que lui a des soins nécessaires pour l'aider. Puis après, l'agresseur, il faut qu'il fasse son temps en dedans avant. Puis après ça, on garde le système au complet. Puis aussi, dans la famille, quand on parle de l'inceste, il y a les victimes, puis l'agresseur, mais les membres de famille, non-agresseurs, qui sont aussi impactés par tout ça, là.
Oui.
Donc, il faut travailler avec tout le système. Puis, une approche autochtone, on fait vraiment ça. Si on peut avoir tous les moyens pour le faire. Traditionnellement, avant l'impact de la colonisation, c'est de même que ça roulait. Parce que c'était tellement important pour avoir équilibre, puis l'harmonie. s'il y avait des problèmes, il fallait les gérer, il fallait les guérir aussitôt possible.
Qu'est-ce qu'on fait si on a des inquiétudes par rapport à un membre de notre famille? Mm-hmm. Sans vouloir interroger l'enfant sans arrêt, sans vouloir accuser une personne sans raison, qu'est-ce qu'on fait si on a des inquiétudes?
Je pense que si on a des inquiétudes, faut pas laisser la loi de la silence régner. Faut pas laisser la loyauté forcer la personne en déni. Faut être présent puis attentif dans notre système familial. Être présent puis attentif, puis d'être capable d'avoir le courage de sortir puis demander de l'aide. Puis avoir une aide sécurité aussi, là, de dire, je peux-tu avoir confiance, soit que ça soit avec un psychologue ou un travailleur social ou bien un aîné dans la communauté, de dire, regarde, j'ai peur, j'ai des doutes, j'ai besoin d'aide. C'est de briser le silence.